Entretien d'hier et d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, Bernard Pivot s'entretient avec Robert Mallet. Premier entretien.
Bernard Pivot, vous voilà dans la situation où vous avez mis, depuis près de 20 ans, des centaines d'écrivains que vous avez accueillis entre vos guillemets, puis parmi vos apostrophes. Vous avez acquis une réputation, une célébrité, parce que vous aviez votre style, votre ton, pour aider à la réputation et à la célébrité des autres. Vous vous êtes fait, ou plutôt on vous a fait un nom, et très vite un renom. Mais cette renommée vous a laissé, sous les projecteurs de la télévision, non pas impénétrable, mais non pénétré. Vous avez été en quelque sorte prisonnier de l'image que vous aviez donnée de vous. Vous avez été enfermé dans le rôle que vous jouiez, pas le mot mission que vous n'aimeriez pas, dans le rôle que vous jouiez, et on vous a mal connu à force de vous connaître dans ce rôle, c'est-à-dire dans la seule pratique de votre métier. Cela signifie que vous ne vous êtes jamais mis en avant, sinon pour faire avancer les autres. Alors voici quelques mois, vous avez publié chez Gallimard une série de dialogues épistolaires avec Pierre Nora, auquel vous avez donné vous-même pour titre « Le métier de lire », ce qui signifie bien que cet ouvrage vivant et explicatif ne concerne que vos activités professionnelles et ne nous livre de vous que ce qui a trait à vos émissions. On pouvait espérer un recueil de souvenirs personnels, où vous nous révéleriez comment vous avez découvert vos deux voix, VOIE et VOIX, c'est-à-dire votre cheminement, votre sonorité, votre résonance, à partir de votre famille, de votre milieu, de vos appartenances régionales, de vos études et de vos premiers écrits. Eh bien non, vous êtes demeuré muet là-dessus. Vous n'avez pas rédigé votre propre chronique. Vous n'avez parlé nulle part de votre vie, en dehors des studios de télévision. Si l'on accepte quelques petites notations sur votre jeunesse dans un album illustré sur le Beaujolais, votre pays d'origine. Vous vous êtes dit que vous auriez bien le temps de vous raconter un jour, si l'envie vous en prenait. Mais en aurez-vous jamais envie ? J'en doute. Vous l'avez reconnu vous-même, je reprends vos termes, vous êtes un optimiste lambin. Alors, représentant tous ceux qui, eux, ne sont pas lambins, qui ont envie de découvrir dès maintenant Bernard Pivot, tel que la vie jour après jour l'a fait ce qu'il est, je me suis demandé si le questionneur accepterait d'être questionné. Et il a accepté. Mais je ne vais pas pouvoir procéder comme vous le faites avec les auteurs dont vous avez lu la biographie, puisque vous ne vous êtes pas raconté. Et d'abord, Bernard Pivot, pourriez-vous me dire, ou plus exactement, nous dire, vos racines, votre filiation, c'est-à-dire la date et le lieu de votre naissance, et évoquer ceux qui vous ont donné le jour, puis qui ont assuré les conditions de votre avenir. Parce que nous le voulions ou non, nous appartenons à des lieux, à des conditions de descendance, de même que des lieux nous appartiennent et des agissements de descendance. Nous pouvons reconnaître nos appartenances, nous en prévaloir ou nous en débarrasser, mais elles existent. Alors quelles sont vos appartenances, vos racines ?
Ma première appartenance est au chiffre 5. Je suis né à la 5e heure du 5e jour du 5e mois de la 35e année. Et ce chiffre 5 m'a toujours poursuivi, au point même que je me demande pourquoi je ne suis pas sur la 5e chaîne et pourquoi je suis resté sur la 2e. Donc,
c'est extraordinaire.
Je suis né, et le 5 d'ailleurs m'a suivi tout au long de ma vie, et je suis né à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, donc je suis non seulement un Lyonnais mais un Canu. Un canut, c'est-à-dire les
quartier fameux, des tisserands.
C'est-à-dire les fameux, les canuts, c'était les ouvriers de la soie qui se sont révoltés. La fameuse révolte des canuts qui a été réprimée dans le sang. Alors, moi, je ne suis pas du tout d'une famille de soyeux, mais, je tiens comme une sorte d'honneur d'appartenir, même d'une manière indirecte, à cette confrérie magnifique des canuts.
Alors, c'est par votre père que vous êtes né à Lyon.
Je suis ah bah, et par ma mère surtout hein, parce que c'est quand même elle qui a accouché hein.
Donc oui, bien sûr, mais c'est quand même votre mère qui n'était pas de Lyon, qui était du Beaujolais.
Ils étaient ni l'un ni l'autre de Lyon. Ils étaient pas très loin, l'un est venu de la Loire, c'est mon père. Et il est né dans un petit village de la Loire qui s'appelle Saint-Symphorien-de-Lay, où son père lui-même était un paysan, puis ensuite un cafetier. Et ma mère est née dans le Beaujolais, et son père, a été viticulteur, et ensuite il est monté dans la hiérarchie sociale en faisant du syndicalisme et en devenant l'un des promoteurs des banques populaires.
Mais pourquoi dites-vous, je suis né par hasard à Lyon? Là, vous parlez de vos grands-parents, mais vos parents étaient fixés à Lyon.
Ah non, ils étaient fixés à Lyon. Mais enfin, je veux dire, bon, ils auraient pu vivre ailleurs.
Ah oui.
Mais il n'y a pas une, j'ai pas une longue tradition lyonnaise, je veux dire, dans ma famille. C'est simplement,
une tradition, on pourrait dire, rhodanienne, un peu.
C'est un peu rhodanien. C'est-à-dire, le Rhône et la Loire sont effectivement deux départements qui se jouent, dont je suis né. Ce qui fait que donc je suis resté, d'ailleurs, si vous voulez, tout de suite, mais on peut parler de football, parce que j'ai donc toujours été partisan à la fois de l'AS Saint-Étienne, qui est le chef-lieu du département de la Loire, et évidemment favorable à Lyon. Et ce sont deux villes qui sont ennemies, qui sont notamment dans le sport, ce qui fait que j'ai toujours été partagé entre mon père, qui était un supporter évidemment de l'AS Saint-Étienne, et ma mère, qui était lyonnaise, et donc j'étais à la fois lyonnais et oui. stéphanois.
Alors,
donc c'est une des ambiguïtés oui. de mon enfance.
Et alors, avant de vous intéresser au football et d'y avoir joué, nous verrons si vous avez pratiqué un sport. Vous êtes donc né, revenons là.
Non, mais je vais vous dire quelque chose à propos du football. Parce que c'est un détail intéressant, parce que vous allez voir comme la vie est curieuse, c'est que je suis donc né à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. Et le médecin accoucheur a d'abord dit, c'était un dimanche jour d'élection municipale, il disait à ma mère, si votre enfant veut aller voter, il faut qu'il se dépêche, parce que le scrutin va fermer dans une heure, et donc je suis né quand même alors que le scrutin n'était pas fermé. Et surtout, ce médecin s'appelait le docteur Rochet. Il est devenu ensuite président de l'Olympique lyonnais. Autrement dit, les premières mains qui m'ont touché, c'était les mains d'un homme qui, par la suite, aimait le football, probablement l'adorait déjà, et ensuite devenu président de l'Olympique lyonnais. Donc vous voyez que dès ma naissance...
Il y avait une appartenance aussi, puisque le football a été pour vous votre sport favori.
Dès ma naissance, le football s'est emparé de moi.
C'était en quelle année, cette naissance?
C'était en 1935.
Les femmes n'avaient pas encore le droit de vote?
Pas du tout.
Il a fallu attendre, on peut le dire en passant, 1945, c'est-à-dire le général de Gaulle, pour qu'elle ait enfin le droit de voter. Bien. Alors donc, votre maman était épicière avec votre papa.
Oui, c'est ça. Bah oui.
Elle tenait la boutique.
Bah, je pense que si elle avait épousé un droguiste, elle serait devenue droguiste.
Si elle avait épousé un notaire, elle serait devenue la femme du notaire.
Voilà, elle serait devenue notaire.
Oui, parce qu'à cette époque-là, il faut le dire aussi en passant, les femmes épousaient non seulement un homme, mais sa situation.
Oui,
tandis que maintenant, et vous en êtes le premier exemple avec votre couple, chacun, chacune fait ce qu'il a à faire dans sa spécialité.
Oui,
chacun a un métier.
Non, mais dans un commerce, très souvent...
Le mari et la femme travaillent conjointement.
Autrement, voilà, c'était donc avant la
guerre.
Dans
quel quartier de Lyon? Alors, dans le
quartier de la préfecture. Non, pas du tout. Dans le quartier de la préfecture, rue Sully. Et ensuite, après la guerre, mes parents ont eu une autre épicerie à côté de l'avenue Foch, là, dans un beau quartier de
C'était une promotion de l'épicerie, alors.
C'était un peu une promotion, effectivement, dans l'épicerie. Donc, mes parents étaient commerçants. Je suis né au milieu de commerçants.
Avez-vous eu des frères et sœurs?
Je suis l'aîné de la famille. Mon frère a 5 ans de moins que moi et ma sœur, qui est née après la guerre, a 12 ans de moins que moi. Mon frère est viticulteur dans le Beaujolais et ma sœur est professeure d'allemand à Lyon.
Alors, quand vous avez vécu vos premières années, c'était à Lyon. Vous êtes allé à l'école à Lyon.
Alors, non, je ne suis pas allé à l'école à Lyon parce que, étant né donc en 1935, en 1940, la guerre, comme vous le savez, a été déclarée. Mon père a été
mobilisé.
Il a été prisonnier de guerre. Donc, pendant 5 ans, je n'ai pas vu mon père. Et ma mère, en portant à la fois son fils aîné et puis son deuxième fils qui venait de naître au moment de la déclaration de guerre...
A
quitté l'épicerie de Lyon. Parce
qu'évidemment, elle l'a vendue.
Non, elle ne l'a pas vendue, mais il fallait rester en l'état. Elle a été fermée et nous sommes repliés dans le Beaujolais. vivait dans la, justement, dans la propriété que possédait mon grand-père maternel.
Et donc, Dumas.
Le grand-père Dumas. Et donc, ma première école a été l'école communale de Quincy en Beaujolais, dans laquelle je suis resté pendant 5 années, de 1940 à 1945.
Je précise que je sais le nom de Dumas, non pas parce que vous me l'avez dit, mais parce que je l'ai lu. Il est l'éducateur de votre recueil, oui, Beaujolais.
Bon. C'est ça.
Alors, vous êtes donc parti pour le Beaujolais, et c'est finalement tout de même dans le Beaujolais que vous avez ressenti le mieux vos racines paysannes.
Tout à fait. C'est-à-dire que voilà, vraiment, les années qui comptent tant dans l'éducation d'un jeune homme ou d'une jeune fille, c'est-à-dire entre l'âge de 5 ans et 10 ans, ces années-là se sont passées donc pour moi à la fois dans la grisaille de la guerre, mais en même temps dans l'excitation de la découverte de la nature, de la campagne et du Beaujolais.
Vous êtes allé à l'école communale ?
Je suis donc allé à l'école communale de Quincy en Beaujolais, avec tous mes petits camarades de l'époque, qui étaient des fils de viticulteurs, et d'ailleurs je suis resté ami avec la plupart d'entre eux quand je fête les conscrits dans le Beaujolais avec eux. Mon meilleur ami est né 6 jours après moi dans le Beaujolais, et c'est resté mon meilleur ami, nous sommes allés à l'école ensemble. Et il est, lui, pâtissier.
Quand votre père est revenu ?
Alors, quand mon père est revenu, mon père, hélas, toujours les signes extraordinaires, mon père est revenu le 5 mai 1945, c'est-à-dire qu'il est arrivé dans le Beaujolais le 5 mai 1945, c'est-à-dire le jour de mes 10 ans. Et je crois même qu'il a été libéré le 25 avril, le jour anniversaire de mon frère, et il est arrivé chez nous en France le 5 mai 1945, de mon anniversaire. Vous voyez, il y a des signes comme ça qui ne trompent pas. Et j'ai vu arriver un homme, évidemment.
Vous ne l'avez pas reconnu ?
Non. Alors mon frère, lui, ne l'avait jamais vu. Moi, je l'ai évidemment, quand je m'en souvenais un peu. Mais d'abord, c'était un homme chauve, complètement, il n'avait plus un cheveu sur le crâne, il est arrivé. Et puis il est arrivé en uniforme de prisonnier de guerre. Et il s'est jeté dans les bras de ma mère, devant tout le monde, parce que là, vous savez, quand les prisonniers de guerre revenaient,
il y avait un accueil officiel,
il y avait un vin d'honneur à la mairie, les enfants quittaient l'école, il y avait une haie d'honneur, etc. Donc j'ai vu arriver cet homme dont on me parlait tous les jours, bien entendu, parce que je lisais ses lettres, qu'il envoyait, les quelques lettres qu'il envoyait d'Allemagne. Donc c'était un homme qui était présent, bien entendu, qui comptait dans ma vie, mais c'est un homme dont j'avais oublié comme presque le physique.
La morphologie était
Et donc cet homme,
oublié.
Cet homme, tout d'un coup, s'est jeté dans les bras de ma mère et...
Vous avez éprouvé un sentiment mêlé ?
Sentiment mêlé, probablement peut-être un petit peu de jalousie, je m'en souviens plus, je voudrais
vous
pas
fabuler. Vous étiez le petit homme auprès de votre mère.
J'étais, voilà, d'un seul coup, mon frère et moi, nous étions les deux hommes qui comptaient le plus dans sa vie, puisque nous étions présents alors que mon père était absent. Et tout d'un coup, on a vu arriver cet homme qui s'est réinséré, bien entendu.
Est-ce que l'idée du père vous avait été quand même, non pas imposée, mais vous avez habité pendant l'absence de votre père?
Ah oui, parce que
la notion de père existait pour vous.
Ah oui, parce que d'abord, je voyais ma mère lui écrire, je voyais ma mère nous en parler sans
cesse. Ça devenait presque mythique.
Oui, c'était un peu mythique. On allait, par exemple, à la prière pour les prisonniers de guerre. Donc, comme moi, j'étais enfant de cœur, je servais
Vous étiez dans une école libre ou privée ?
Non, c'était l'école publique. Oui. Dans un village de 1000 habitants, il n'y a pas d'école libre.
Alors, en Bretagne, il y en a.
Ah oui, mais pas dans le Beaujolais. Donc, c'était une école laïque, mais ma mère...
Mais vous étiez enfant de cœur.
Alors, il se trouve que mon grand-père maternel ne croyait ni à Dieu ni au diable, mais sa fille unique avait au contraire un engagement religieux très très vif, ce qui fait que j'ai eu une éducation très marquée en ce qui concerne...
Ce que vous ne regrettez pas.
Ce que je ne regrette pas, non, pas du tout. Je vais vous donner la raison, c'est que cela m'a évité ensuite de faire des bêtises politiques. Ayant été enfant de cœur pendant 10 ans, 12 ans, ayant été l'enfant de cœur de Jésus, de Marie et des saints pendant 10 années, ça m'a évité ensuite de devenir l'enfant de cœur de Marx, de Mao, de Castro, de Pinochet et autres tyrans de cette planète.
Alors vous avez gardé tout le côté de la morale chrétienne qui peut être une solide armature dans la vie.
J'ai gardé certains aspects de la morale chrétienne, oui, ayant été marqué respecte ton prochain, aime ton prochain, ce sont des choses qui vous marquent quand vous êtes jeune homme et ce sont des enseignements qu'on ne met pas toujours malheureusement en application.
Oui, mais il y a eu aussi des laïcs qui disaient tu respecteras ton prochain.
Oui, mais bien sûr, mais non, mais j'ai jamais dit
oui.
que...
Non, mais je pense... comme vous, que la morale chrétienne est une armature, comme je disais tout à l'heure, très solide pour la vie.
C'est une morale formatrice.
Formatrice, oui, qui vous marque et qui vous marque dans le bon sens.
Ça, c'est votre avis.
Même si on ne pratique plus, il marque dans le bon sens, parce que c'est la fraternité. Est-ce que votre père a pris en main vos études,
Ah non, mon père et ma mère sont retournés à Lyon, ils ont ouvert une épicerie, donc je suis retourné à Lyon, et comme ils n'avaient pas le temps de s'occuper de moi, ils m'ont mis en pension. Ils m'ont mis au pensionnat Saint-Louis, à Lyon.
Pensionnat catholique.
C'était un pensionnat catholique.
Alors, vos vacances, vous les passiez chez le grand-père maternel?
Non, je ne les passais pas du tout. Je les passais... parce que mon grand-père maternel est mort en 1945. Non, je les passais avec mes parents dans la petite maison qu'ils avaient dans le Beaujolais.
Là, vous aviez abandonné... Vous étiez dans le Beaujolais.
Non, mais je passais mes vacances chez les vignerons de mes parents.
Oui, alors justement, vous voudriez que nous parlions de tout ce qui a... Alors, certainement, graver votre sensibilité, cette vie de vie...
Pourquoi dites-vous aggraver ?
Non, aggraver.
Aggraver.
Vous voyez les inconvénients de... ce qu'il y a, la gravure en vous.
Oui,
mais c'est intéressant de voir
qu'en effet...
Il m'a marqué. Oui. Alors, vous avez vécu dans ce milieu rural très particulier, très spécifique, dirait-on, intellectuellement, très particulier qu'est le milieu des viticulteurs. C'est plus joli de dire des vignerons, d'ailleurs, maintenant. On garde le nom de vigneron quand même.
Je préfère le mot de vigneron.
Oui, moi aussi, mais l'emploie-t-on encore parce
que beaucoup.
De même qu'on ne dit plus cultivateur, on dit exploitant agricole. Est-ce qu'on dit viticulteur?
Mais mon frère, sur son papier, ses papiers de lettres, il y a marqué Jean-Charles Pivot, vigneron.
Oui.
Et non pas viticulteur.
Alors, vous avez donc vécu dans ce milieu et vous avez participé au cycle du raisin, quand vous étiez très jeune.
Ah, mais j'ai participé à tous les travaux de la vigne.
Tous les travaux de la vigne. Pas seulement à la récolte, à la vendange.
Non, non,
mais à la taille, au sarclage.
J'ai sulfaté, même, à l'époque, il y avait encore des chevaux avec la charrue. Moi, j'ai même conduit la charrue avec le, vous savez, j'ai gardé des troupeaux de chèvres, des vaches, et je lisais un livre, d'ailleurs, ces jours où quelqu'un racontait, Guy Georgi racontait ses souvenirs de gardeur de troupeaux d'oies. Finalement, le seul animal que je n'ai pas gardé, ce sont des oies. Mais autrement, les vaches, les chèvres, les moutons, je les ai gardés.
Après les écrivains. Bon, alors, maintenant, passons à l'action, si je puis dire, mentale et sentimentale, qui a été provoquée par vos activités de vigneron.
Ah non,
parce que dans les Beaujolais, vous faites des petites confidences quand même.
Mais non, mais vigneron, non. J'ai pas été un vigneron.
Non, c'était un net vigneron.
J'étais un garçon qui s'intéressait aux travaux de la vigne, qui a été initié au vin par Antoine Dulac que vous évoquiez il y a un instant. Donc j'ai appris tout simplement. Mais je ne l'ai pas su quand j'ai vécu ces années-là, mais simplement j'ai eu la chance de vivre dans cette sensualité du vin, dans cette beauté que de la vigne. Rien n'est plus beau finalement qu'un vignoble en plein été quand les raisins là sont si beaux sous le soleil, et à l'automne quand les feuilles de roussissent, deviennent jaunes, prennent toutes les couleurs de la peinture. Donc
c'est une chance. Vous avez été imprégné d'une ambiance, d'un décor, particulière qui est celle de
bien entendu prenez par exemple
qui fait le vin.
Prenez par exemple les vendanges ont été pour moi une période. J'ai pas raté une seule campagne de vendange de l'âge de disons de 6 ans jusqu'à l'âge de 20 ans. Pour moi, ça a été une époque très formatrice parce que les vendanges m'ont initié à la sensualité, je dirais même à la sexualité.
Oui, alors je voulais en venir à une confidence que vous faites dans Beaujolais. Votre premier amour, vos premières amours, je ne sais pas si vous employez le féminin pluriel, vos premières amours ont été pour une jeune fille qui faisait la vendange et que vous guignez à chaque...
Non, mais Robert Mallet, figurez-vous ce que c'est que des vendanges. Les avez-vous faites?
Non.
Bon,
alors, je suis un pays de pommes.
Oui.
J'ai fait la récolte des pommes aussi quand j'étais jeune, car j'ai vécu dans un milieu rural aussi.
Oui, alors les pommes, il faut s'exaucer pour les
cueillir. Non, on avait des perches, on les faisait tomber, on en faisait du cidre, ça n'a pas du tout la même poésie. Qu'on en vienne à cette notion amoureuse liée à la vendange.
Non, je vais vous expliquer. C'est que la vendange, il s'agit d'abord de se pencher sur un cep. Et c'est très douloureux, parce que vous avez les reins coupés du lever du jour jusqu'au coucher du soleil. Vous êtes vraiment penché sur ces cèpes et vous devez donc y cueillir les raisins. Et en même temps, c'est à la fois très fatigant, parce que vous avez très mal aux reins, mais en même temps, cela est d'une sensualité absolument
prodigieuse.
Figurez-vous le cep. Vous passez d'un cep à l'autre et chaque fois, vois vos mains qui sont pleines de, à la fois de brûlures du soleil, mais de coupées aussi, et avec le sucre qui s'attache à ces mains qui sont à la fois dégoûtantes et en même temps pleines de
sève,
sucre,
on peut dire.
De sève. Eh bien, ces mains s'introduisent dans le cèpe, et comme dans l'amour.
Vous parlez des cathédrales.
Non, mais c'est comme dans l'amour, elles vont fouiller le cèpe, elles en recueillent les meilleurs fruits, elles les saisissent, elles les coupent, elles les tiennent dans la main, oui. les déposent. Il y a donc un rapport extraordinairement permanent de sensualité avec le cèpe, avec les... Et il y a les guêpes qui sont autour de vous, qui n'arrêtent pas, qui ne vous lâchent pas. Il y a le soleil qui vous darde le crâne. Il y a les cris des vendangeurs. Il y a les chansons des vendangeurs. Il y a des jeunes filles qui sont très belles. Qui
mais
sont
on va en venir à
donc
ça.
Donc vous voyez les décolletés. Oui. Vous voyez. Il y a donc cette ambiance de sensualité de la vigne, oui. Moi qui m'a marqué à tout jamais, c'est oui. Évident.
Alors quand vous parlez des cathédrales, il s'agit de l'architecture des cèpes.
Non, c'est-à-dire que dans.
L'architecture des cèpes, à la fois de la forme des ogives ou des.
Non, c'est pas ça. C'est pas. Non, enfin, c'était un peu ça, mais c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que le Beaujolais est planté d'un cépage qu'on appelle le Gamay, qui est un cèpe qui est très répandu. Mais à l'intérieur des rangées de cèpes, vous avez d'un seul coup un cèpe qui est beaucoup plus fort que les autres, comme il y a des hommes qui mesurent 2 mètres ou 2 mètres 5 et qui sont donc beaucoup plus costauds, plus grands que les autres. Et tout d'un coup, on a surnommé ces cèpes énormes, munificents, des cathédrales.
Oui. Ils dominent les petites églises.
Alors, ils dominent. Et quand d'un seul coup, vous avez eu la malchance de tomber sur une rangée où les cathédrales sont plus nombreuses que les cèpes ordinaires, fatalement, votre travail devient plus important, puisqu'il y a plus le cèpe est considérable, plus en règle générale il contient de raisins.
Alors, il y a eu au cours d'une des vendanges de votre jeunesse, vous aviez 15 ou 16 ans, il y a eu une jeune fille qui vous a frappé, séduit, mais vous parlez d'une d'entre elles et vous dites finalement c'est. C'est un garçon qui se curait les dents avec un opinel, qui se l'est envoyé à la fin des vendanges.
Sûr. Enfin, vous dites ça. Oui, mais parce que moi, j'étais timide. J'ai toujours été un garçon très, très timide. Et là, il y avait des matous de 18, 20 ans qui venaient de la ville, qui étaient des garçons beaucoup plus évolués, beaucoup plus hardis que moi. Et donc, ils l'ont emporté très facilement. Je n'étais pas de taille. Simplement, il y avait une concurrence à l'intérieur de la vigne pour arriver le premier en haut, pour ensuite aller aider la jeune fille qui, elle, savait que tous les garçons ne demandaient qu'une chose, c'est de venir l'aider et de pouvoir ensuite plonger au milieu des cèpes avec elle. D'un seul coup, il y a une sorte d'intimité complice qui s'établit entre la jeune fille que vous aidez à couper le raisin et vous-même. Et donc, évidemment, c'était un bonheur fortuit, un bonheur qu'on...
Oui, alors il y a quelque chose dans la vendange qui rappelle un peu les initiations bachiques d'autrefois. Il y a une espèce de sensualité qui saisit l'homme parce qu'il participe réellement à une récolte presque sacrée du vin liquide vital.
Ah ben d'abord, on vit ça dans le Beaujolais. On ne vit que du vin, d'abord. Oui. Une ou deux anecdotes. Moi, j'ai vu cet Antoine Dulac. Alors, le vieux, vraiment vigneron paysan du Beaujolais avec des moustaches jaunies par la nicotine, qui buvait la gnôle le matin. Mais je l'ai vu pleurer un jour, mais pleurer à chaudes larmes parce que la grêle était tombée sur le vignoble 8 jours avant les vendanges et qu'il ne restait pas grand-chose. Je l'ai vu pleurer, cet homme qui était noueux et sec comme un vieux cèpe. Je l'ai vu pleurer. Ça vous marque pour la vie, bien entendu. Et le bonheur des vendanges continuait avec le pressoir. Quand le premier vin coule, vous voyez, on presse donc le... Vous n'avez jamais vu ça. Bon. Alors bon, il y avait le pressoir. Maintenant, tout est mécanisé, bien entendu, tout est automatique. Mais autrefois,
pas tout, parce que vous le dites justement, il y a des gestes qui restent les gestes traditionnels.
Non, mais ce livre, je l'ai publié il y a 20 ans, et les choses ont encore évolué, cher Robert Mallet, depuis 20 ans. Tout s'est modernisé encore plus. Maintenant, on appuie sur un bouton, puis le pressoir...
Oui, mais il faut bien cueillir le raisin quand même.
Ah oui, ça...
Il y a toujours les jolies filles qui cueillent le raisin avec les garçons.
Toujours,
bon, heureusement.
Toujours. Donc le pressoir, alors il y a une grande barre de fer, et là aussi, c'était encore à la sueur de l'homme qu'on pressait le raisin. Et ce premier vin qui sourd du pressoir, c'est le mot est faible, qui coule, c'est comme un ruisseau d'un seul coup qui jaillit.
Une source.
C'est comme une source qui jaillit. Alors, il a un nom, ça s'appelle le paradis. Et alors, on prenait ce vin qui est un peu chaud, et on le buvait, on mettait sa main sur son cœur, on buvait du paradis, et on faisait un vœu. Alors souvent, c'était un vœu, bien entendu, d'amour. Et en règle générale, j'ai remarqué que très souvent, ces vœux se réalisaient en buvant le paradis. Il ne fallait pas en boire beaucoup.
Le paradis, est-ce que c'est un mot local, ou est-ce que c'est un mot de vigneron de toute la France?
Non, c'est dans le Beaujolais qu'on appelle
le paradis. C'est ce que le mot paradis, c'est le même mot que parvis, c'est le... Vous savez, c'est le lieu qui précède
le bonheur.
Oui, le bonheur.
Le bonheur éternel.
Le bonheur, oui. Donc, ça prouve que là, il y a un plaisir particulier qui est presque un plaisir sacré.
Mais il y avait un plaisir de boire ce premier vin qui, effectivement, vous avez raison de le dire, est un peu sacré. C'est le plaisir d'abord de le boire, tout simplement parce qu'il est très bon, même s'il est trop sucré. Et enfin, parce qu'il nous promet des vœux qui seront exaucés.
Alors, je voudrais, Bernard Pivot, que nous en venions à ce que vous racontez. Là, c'est une des rares choses que vous racontez. Vous nous dites dans les Beaujolaises, je dis les Beaujolaises parce que je n'ai pas su dire Beaujolaises, si ça veut dire page Beaujolaise, photo Beaujolaise.
Ça veut tout dire.
Ça veut dire
impression Beaujolaise, sensation Beaujolaise. Alors
dans vos impressions, vous dites que vous aviez songé à écrire un roman, sans savoir même ce qu'était la littérature. Lorsque vous aviez 12 à 13 ans, c'est pendant cette phase assez vigneronne de votre jeunesse. Et ce roman, ce serait appelé « Les Têtières et les Béragnons ». Alors, voulez-vous expliquer ce que c'est que les Têtières, ce que les Béragnons ?
« Têtière » est quand même un mot français. Il veut dire simplement la tête de la vigne, le haut de la vigne. C'est cette petite rangée de terre qui en délimite le haut. Et le Béragnon, qui est un mot, alors vraiment du patois beaujolais, désigne la bande de terre qui termine le bas de la vigne.
Alors, on a l'impression qu'il y a une opposition.
Ben oui,
et que vous faites de cette opposition physique... Dans le thème de votre roman, une opposition morale comme entre les Montaigu et les Capulet.
Oui,
est-ce que c'est l'histoire de Roméo et Juliette?
Non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que j'avais 13 ou 14 ans et j'avais trouvé qu'on a des idées tout à fait logiques. Alors je me disais, au fond, je vais raconter les hauts et les bas de la vie, à la fois ses bonheurs et ses servitudes, ses réussites et ses échecs. Donc j'ai pris cette métaphore facile, c'est-à-dire les Têtières et les Béragnons. Rien de plus.
Mais
j'en ai pas écrit trois lignes.
Ce qui est bon d'ailleurs parce que ça introduit un mystère. Mais alors, vous avez dit que vous auriez pu écrire un autre livre, ou tout au moins trouver un autre titre de livre, et je le trouve très beau, parce que c'est déjà l'introduction. Le Beaujolais est dans la langue d'oc, il n'est pas dans la langue d'oil. Luz ablavaison et luz coquaison, ou coquaison, je ne sais pas comment on dit. Il faut abandonner les travaux de la pioche, c'est plus le moment de faire le coq, hein, c'est ça que ça veut dire.
Voilà.
Alors, est-ce que vous pourriez développer aussi cette idée dont vous auriez pu faire un roman ?
Oh non, franchement, je me souviens pas du tout. Là, si je me mettais à développer cette idée, je mentirais. C'est-à-dire que d'un seul coup, je me mettrais dans le cas de quelqu'un qui se met à enjoliver, à délirer sur des souvenirs de jeunesse dont il n'est pas sûr.
Mais les mots que vous avez employés, ablavaison
oui,
et coquaison...
Oui, mais ça sont des mots qu'on emploie là-bas,
encore,
qu'on n'emploie plus, non. Pratiquement, les jeunes gens ne parlent plus le patois. C'en est fini du patois. Je ne parle pas, non. J'ai jamais parlé le patois. J'ai connu des... On emploie encore des mots patois. Par exemple, on dit...
Les grismottes.
Ouais, les grismottes, c'est-à-dire c'est le... Quand les vendanges sont finies, on a oublié fatalement un peu de raisin sur les cèpes et
la troussée.
Quand on repasse, on fait des grismottes. Non, la troussée, c'est la rangée de vignes.
On dit dans tous les pays.
Mais il y avait la revole aussi. C'est le dernier jour des vendanges. Il y a quelques mots. Les légumes. On ne dit pas un grain de raisin là. Bon, je ne sais pas si on le
dit. Ça se dit ailleurs.
Ça se dit ailleurs. Bon, donc il y a des mots comme ça. Il y a encore quelques mots patois qui ont survécu, mais les jeunes gens, il faut bien le dire, n'emploient plus le patois, et les vieux qui ne s'exprimaient souvent qu'en patois sont morts.
Oui, alors, c'est curieux parce que dans une province comme la mienne, la Picardie, le patois est resté beaucoup plus vivace. Alors qu'on n'a pas toutes ces traditions culturelles, enfin non, de la culture, de la viticulture ou de... Vous dites, Bernard Pivot, dans Beaujolaise, que vous êtes le défenseur du langage du croquant et des patois opprimés. Et j'aimerais savoir
ce
que vous pensez du maintien ou non de ces patois.
Oh, moi, je pense que je suis pour les minorités, surtout quand elles sont sympathiques, ces minorités. Ce sont pas des... Le patois est une... Les patois français sont des minorités en voie de disparition, mais sont des minorités joyeuses, qui ont comme on parlerait du vin, qui ont de l'étoffe, qui ont de l'humeur. Donc je suis fatalement pour ce genre de...
Oui, il y a une personnalisation à travers le patois.
Oui, mais oui. Chaque campagne s'est affirmée à travers son patois, chaque région française. Mais il faut bien constater que ces patois disparaissent. Ainsi va la vie.
Oui, ainsi va la vie. Je pense qu'il y a là un peu de nostalgie, mais qu'il y a la nécessité de subir, non pas l'uniformisation, mais la pratique d'un beau langage, et vous vous y êtes employé plus tard.
À voix nue, entretien d'hier et d'aujourd'hui. Bernard Pivot s'entretenait avec Robert Mallet. Réalisation Marie-André Arminot. Demain, deuxième entretien.